Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Morgane Guiriec et Peggy Wabeno en direct de la capitale américaine, mardi 25 septembre 2018. Le Monde aujourd'hui, édition de 18h30, temps universel. Au sommaire ce soir.
Ouverture ce mardi de la 73e Assemblée générale des Nations unies à New York. Le président Donald Trump s'en est ouvertement pris à l'Iran et à la CPI.
Dans l'est de la RDC, nouvelle attaque des rebelles ADF à Oicha. 17 personnes ont été enlevées.
Retour au calme à Tripoli. Après une nuit de violence, 110 personnes ont été tuées depuis le mois dernier.
En partie magazine, nous ferons le point sur les inondations au Nigeria qui ont causé la mort de plus de 30 personnes.
La majorité des gens que vous voyez ici viennent des villages. Ces inondations ont affecté beaucoup de personnes. Certains ont perdu leur habitation.
Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal.
Donald Trump a... Ouverture ce matin à New York de la 73e Assemblée générale des Nations unies en présence de plus de 130 chefs d'État et de gouvernement. Le premier discours a été prononcé par le président américain Donald Trump qui a mis en exergue sa philosophie de l'Amérique d'abord. Les discours des présidents français, rwandais et congolais ont suivi. Revue de la journée avec Raïssa Girondin.
La majorité des gens que vous voyez ici viennent des villages. Ces inondations ont affecté beaucoup de personnes. Certains ont perdu leur habitation.
Alors, on a quelques problèmes techniques. Donc, on va essayer de continuer. Donc, on peut peut-être passer au président Donald Trump qui a donné le coup d'envoi des discours des chefs d'État. Il s'en est pris à la Cour pénale internationale qui qualifie d'illégitime. On l'écoute.
Donald Trump a vivement critiqué à l'ONU la Cour pénale internationale, accusée de n'avoir aucune légitimité et aucune autorité. Il a dénoncé aussi la dictature corrompue en Iran. Il a menacé la Syrie si elle utilisait des armes chimiques et à son approche de paix avec la Corée du Nord. Le président rwandais Paul Kagame a suivi à la tribune au Palais de Verre à New York, ainsi que le président français Emmanuel Macron, extrait de son discours.
Nous devons, mes amis, une réponse aux 265 millions d'enfants qui n'ont pas accès à l'école, dont plus de la moitié vivent en Afrique subsaharienne, aux jeunes filles auxquelles moins de 40% des pays offrent un accès équitable à l'éducation. Nous devons une réponse aux 700 millions d'enfants qui vivent dans les régions les plus exposées aux conséquences du changement climatique, victimes des inondations, des sécheresses, de la montée des eaux, de la raréfaction des ressources.
En fin de journée, le président congolais Joseph Kabila fera éventuellement son dernier discours avant de quitter le pouvoir. Il devrait évoquer le processus électoral dans son pays et la consolidation de la paix dans la région de Grand Lac à quelques mois de la tenue des élections fixées au 23 décembre. Raïssa Girondin, VOA Afrique, New York.
Voilà, on s'excuse pour les problèmes techniques. Hein. Il s'agissait bien de la revue de la journée avec Raïssa Girondin.
Et donc, le journal se poursuit. C'est le président Donald Trump qui a donné le coup d'envoi des discours des chefs d'État. Il s'en est pris à la Cour pénale internationale qu'il qualifie d'illégitime. On l'écoute.
Les États-Unis ne soutiendront ni ne reconnaîtront la Cour pénale internationale. En ce qui nous concerne, la CPI n'a aucune légitimité ni autorité. La CPI revendique une juridiction quasi universelle sur les citoyens de tous les pays, en violation de tous les principes de justice, d'équité et de procédures régulières. Nous n'abandonnerons jamais la souveraineté de l'Amérique à une entité non élue et irresponsable. L'Amérique est gouvernée par des Américains. Nous rejetons l'idéologie de la mondialisation et acceptons l'idéologie du patriotisme.
America is governed by Americans.
Le président américain a aussi accusé l'Iran de déstabiliser le Moyen-Orient.
Les dirigeants iraniens créent le chaos, la mort et la perturbation. Ils ne respectent pas leurs voisins, leurs frontières ou les droits souverains des nations. Au lieu de cela, ils pillent les ressources de leur pays pour s'enrichir et répandre le chaos à travers le Moyen-Orient et bien au-delà. Le peuple iranien est à juste titre indigné que ses dirigeants ont détourné des milliards de dollars du Trésor, saisi des portions précieuses et pillé des dotations religieuses pour remplir leurs propres poches. Et envoyé leurs mandataires pour faire la guerre. L'accord iranien est une aubaine pour les dirigeants iraniens. L'année qui a suivi l'accord, le budget militaire a augmenté de près de 40%. La dictature a utilisé ses fonds pour construire des missiles à capacité nucléaire, accroître la répression interne, financer le terrorisme et le massacre en Syrie et au Yémen. Les États-Unis ont lancé une campagne de pression économique pour priver le régime des fonds dont il a besoin pour mener un agenda sanglant. Nous avons commencé à réimposer des lourdes sanctions qui ont été levées dans le cadre de l'accord iranien. Des sanctions supplémentaires seront imposées le 5 novembre et d'autres suivront.
Sur l'immigration, le président américain a revendiqué le droit des États-Unis de définir sa politique en la matière.
Only by upholding.
Ce n'est qu'en protégeant les frontières nationales, en détruisant les gangs criminels, que nous pourrons briser le cycle et rétablir une véritable base pour la prospérité. Nous reconnaissons le droit à chaque nation dans cette salle de définir sa propre politique d'immigration en fonction de ses intérêts nationaux, tout comme nous demandons aux autres pays de respecter notre droit de faire de même. C'est une des raisons pour lesquelles les États-Unis ne participeront pas au nouveau pacte mondial sur l'immigration. La migration ne doit pas être régie par un organisme international qui ne rend pas des comptes à ses propres citoyens. En fin de compte, la seule solution à long terme à la crise migratoire est d'aider les gens à construire un avenir plus prometteur dans leur pays d'origine, rendre la grandeur à leur pays.
Their countries great again.
Le président américain Donald Trump à la tribune des Nations Unies à New York.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité, une personne a été tuée et 17 enlevées lors d'un raid attribué aux rebelles ADF lundi soir à Oucha, dans l'est de la République démocratique du Congo. Arzuma Kompore.
La situation est paralysée à Oucha, a indiqué mardi un responsable administratif local, Dona Kibwana. La plupart des commerces et des écoles sont fermés. Les nouvelles attaques survenues samedi puis lundi suscitent la colère des habitants de la région de Beni, dans le Nord Kivu, où des centaines de civils ont été tués depuis octobre 2014 dans des massacres attribués aux ADF. Hier, les organisations de la société civile de Beni ont décidé d'observer une grève générale, ville morte, jusqu'à vendredi. Les habitants dénoncent l'impuissance de l'armée et des casques bleus massivement présents dans la région. En outre, l'ONU lance une mise en garde sur une conjonction optimale de facteurs qui menace la réponse humanitaire à l'épidémie d'Ebola. Mardi, l'Organisation mondiale de la santé a suspendu ses activités à Beni. Elle estime par ailleurs que l'Ouganda est maintenant confronté à une menace imminente d'être touché par le virus Ebola, avec l'apparition de nouveaux cas à Choma, près du lac Albert. Des vaccins ont été envoyés et devraient arriver en Ouganda le 27 septembre.
Dans le nord-est du Nigeria, l'armée a repoussé une nouvelle attaque tentative de Boko Haram de s'emparer d'une base militaire au Nigeria. C'est ce qu'indiquent des sources sécuritaires et civiles citées par l'AFP. Des dizaines de combattants de la faction affiliée au groupe d'État islamique ont attaqué dimanche une base dans le village de Kekeno, près de la ville garnison de Monguno, dans l'état du Borno. Selon un officier basé à Maïdougouri, la capitale du Borno, les insurgés étaient équipés des canons anti-aériens rien et de lance-roquettes.
Mauritanie, les autorités ont fermé un centre d'enseignement théologique accusé par le gouvernement de dispenser un enseignement islamiste extrémiste en relation avec le mouvement des frères musulmans. Cette mesure intervient après la mise en garde lancée la semaine dernière par le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz contre l'islam politique, alors que le parti islamiste Ewassoul a confirmé son statut de principale force d'opposition aux élections législatives et locales, largement remportées par le parti au pouvoir.
Dans le sud du Niger, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans inquiète Médecins sans frontières à Magaria. Une moyenne de 10 décès par jour a été observée. Ces enfants souffrent de complications dues à des formes graves de paludisme ou de malnutrition, explique l'ONG. 11 100 enfants ont été admis du 1er janvier au 31 août de cette année dans la ville de Magaria.
Au Zimbabwe, au moins 45 personnes sont mortes du choléra ces trois dernières semaines, selon l'Organisation mondiale de la santé, qui annonce le lancement imminent d'une campagne de vaccination orale. Sur un total de 6428 cas suspects, 45 décès et 96 cas confirmés ont été enregistrés. Un demi-million de doses de vaccins oraux sont attendues mercredi dans le pays.
En Éthiopie, Amnesty International condamne les arrestations des milliers de personnes. Ces arrestations menacent le mouvement d'avancée des droits de l'homme récemment lancé par le Premier ministre Abiy Ahmed. Les autorités éthiopiennes avaient admis en début de semaine avoir procédé à des milliers d'arrestations parmi les auteurs présumés des violences qui ont fait au moins 58 morts à la mi-septembre en périphérie d'Addis Abeba. Selon les témoignages, des groupes de jeunes d'ethnie Oromo avaient agressé des habitants d'ethnie minoritaire, notamment à Bourayou, dans la banlieue de la capitale éthiopienne.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique présentée par Nani Talani.
Afin de relancer son économie et stimuler le tourisme, le gouvernement sud-africain a annoncé aujourd'hui un assouplissement des régulations de visa qui vise notamment les ressortissants chinois et indiens. Ces voyageurs seront éligibles à un visa à entrée multiple valable jusqu'à 10 ans. Cela devrait attirer un nombre important de touristes, d'hommes et femmes d'affaires et de familles. Au Niger, le directeur général du groupe nucléaire français Orano, Philippe Noche, a visité aujourd'hui à Arlit les mines d'uranium du groupe en restructuration en raison de la chute des cours. Philippe Noche estime que les concurrents canadiens ont aussi réduit leur production de manière significative, près de 20%, et les prix de l'uranium ont pu se stabiliser. Cela devait aider l'économie du Niger, quatrième producteur d'uranium au monde. Et pour finir, les États-Unis vont créer une nouvelle institution financière dotée de 60 milliards de dollars pour contrer l'influence grandissante de la Chine dans les pays en développement. La création de cette structure intervient dans un contexte de durcissement de la rivalité économique entre les deux grandes puissances. L'Overseas Private Investment Corporation, OPIC, l'actuelle institution de financement du développement du gouvernement américain, sera intégrée à la nouvelle entité et autorisée à investir dans des actions.
Les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Daniel Cousin, seul et unique sélectionneur du Gabon.
Oui, l'ancien international gabonais Daniel Cousin a été promu seul sélectionneur de l'équipe nationale des Panthères suite au désistement de Pierre-François Aubameyang, le père de la star d'Arsenal. Annoncé hier du ministre gabonais des Sports à la presse, l'ex-joueur du RC Lens a été intronisé premier sélectionneur de l'équipe gabonaise alors qu'il aurait dû partager la gestion de l'équipe avec Pierre-François Aubameyang. Mais ce dernier a décliné l'offre via son fils Pierre-Emerick Aubameyang qui avait démenti l'annonce suite à la maladie de son père. Pierre-Emerick Aubameyang avait également dénoncé l'amateurisme de la fédération qui n'avait même pas attendu la réponse de son père pour annoncer la nomination.
Modric, sacré meilleur joueur FIFA de l'année.
Oui, la remise du trophée a eu lieu hier soir à Londres. Luka Modric était le favori, lui qui a été désigné meilleur joueur de la Coupe du Monde en Russie et qui a remporté la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Cristiano Ronaldo, également vainqueur de la C1, n'était pas présent hier soir à la cérémonie officiellement car la Juventus prépare un match cette semaine. Didier Deschamps, sacré meilleur entraîneur. Thibaut Courtois, sacré meilleur gardien. Et Mohamed Salah prit Puskás du plus beau but. Messi aussi était absent pour des raisons familiales. Mais cela n'a pas empêché le Camerounais Samuel Eto'o de faire une nouvelle fois part de son admiration pour Lionel Messi, qu'il considère comme le meilleur joueur du monde.
Lionel Messi ne jouera pas contre le Brésil ni l'Irak avec l'Argentine.
Oui, l'attaquant du Barça a demandé à nouveau à Lionel Scaloni de ne pas le convoquer. Le sélectionneur par intérim a confirmé que la star albicéleste a fait cette demande pour les matchs prévus en octobre contre le Brésil et l'Irak. La participation de Lionel Messi à la Copa América 2019 est incertaine.
Dû à la distance en Serie A entre Naples et la Juventus,
déjà détachés en tête du championnat d'Italie, la Juventus Turin et Naples s'affrontent samedi pour un choc au sommet. Mais Avant cette rencontre, Cristiano Ronaldo et les siens, qui comptent 5 victoires en 5 matchs, devront accueillir Bologne demain soir. Naples, de son côté, doit gagner contre Parme pour maintenir les 3 points d'écart qui les séparent du leader.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgan Guiriec et Peggy Wabino. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Au Nigeria, la fin d'hivernage est difficile pour les millions de personnes affectées par des inondations dans plusieurs états du pays.
Les autorités ont déclaré l'état de catastrophe nationale en raison d'inondations qui ont causé des déplacements massifs et la mort de plus de 30 personnes. L'Agence nationale pour la gestion des urgences tente d'évacuer les sinistrés. Au moins 7 états sont encore en difficulté. Le correspondant de VOA Afrique au Nigeria, Gilbert, vient d'effectuer une visite dans l'état de Kogi le plus affecté. Voici son reportage.
Des maisons submergées, des personnes qui tentent laborieusement de se déplacer en portant des bagages sur leurs épaules, c'est le quotidien de plusieurs milliers de personnes sinistrées dans l'état de Kogi au centre du Nigeria. Des familles qui ont tout perdu et qui trouvent provisoirement refuge chez des proches ou dans les centres de déplacés. La situation est particulièrement préoccupante à la périphérie de Lokoja, la capitale de l'état de Kogi, sous les eaux depuis 3 semaines. Victor Abaya et sa famille ont tous quitté et leur maison est encore sous les eaux.
C'est un désastre naturel, mais c'est surtout en 2012 que nous avions connu des plus graves inondations ici et nous avions appris, selon l'histoire, que le même scénario s'était produit 35 ans avant celui de 2012. Nous étions aussi obligés de quitter en 2012 et ils ont dit que le gouvernement avait offert quelques maisons aux sinistrés. Certains ont bénéficié, mais d'autres non.
Emmanuel Ukechukwu a déménagé dans ce quartier et vit sa première inondation.
J'ai déménagé ici il y a 2 ans, mais selon les résidents du quartier, cela se produit depuis 2012. En 2015, il y a eu des inondations et cette année encore, nous vivons la même chose. Moi, c'est ma première expérience et donc j'ai pris mes bagages et ma famille pour partir d'ici. Nous sommes dispersés, ma famille vit quelque part et moi je vis dans un autre endroit.
Les autorités de l'état de Kogi ont recensé plus de 26 000 personnes chassées de leurs habitations par la montée des eaux dans 9 localités. Des postes de commandement de crise ont été mis en place pour notamment coordonner les opérations d'aide aux personnes affectées. Younoussa Fatima est mère de 7 enfants, sa maison a été détruite et aujourd'hui elle a trouvé refuge dans ce centre de déplacés.
La majorité des gens que vous voyez ici viennent des villages. Ces inondations ont affecté beaucoup de personnes. Certains ont perdu leur habitation et d'autres se sont déplacés d'un village à un autre à la recherche d'abri et l'eau est venue les poursuivre encore jusque là-bas. Des champs ont été détruits, ils n'ont plus à manger et d'autres n'ont même pas où mettre leurs bagages.
L'Agence nationale pour la gestion des urgences, NEMA, a déclaré la semaine dernière l'état de catastrophe nationale en raison d'inondations qui ont causé la mort d'une 30aine de personnes dans l'état de Kano et quelques 10 000 habitations détruites. Au total, 7 États sont encore dans une situation difficile à l'image de Lokoja, où les eaux ont atteint 11 mètres de haut, soit le seuil atteint lors des inondations de 2012 qui avaient fait plus de 2 millions de sans-abri. Gilbert Tamba, Kogi, au centre de Nigeria, pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Burkina Faso, le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, Newton Ahmed Barry, a prononcé un discours aujourd'hui pour répondre aux critiques dont il fait l'objet de la part de commissaires de l'opposition qu'il accuse de gérer l'institution seule.
Des accusations qu'il a rejetées, affirmant qu'il va entamer des démarches dans les jours à venir pour sauver la CENI. Pour une analyse, Bagassi Koura a joint le politologue Siaka Koulibaly.
Les commissaires issus de l'opposition politique lui reprochaient sa gestion de la commission électorale et même des aspects financiers de cette gestion ont été épinglés par les commissaires de l'opposition qui ont fait une déclaration la semaine dernière. Donc Newton Ahmed Barry ce matin répondait à cette déclaration.
Oui, mais est-ce que les commissaires de l'opposition ont donné des faits concrets de malversation ou est-ce que c'était juste des accusations qui ne sont pas allées au fond?
À ce stade, on peut dire que les commissaires de l'opposition, dans leur déclaration, s'en tenaient à des allégations. Ils n'ont donné aucun fait précis, ni aucun chiffre, ni aucun nom de responsable qui serait impliqué. Ils reprochent seulement au président de la commission sa façon de conduire les affaires, en particulier l'animation du dialogue interne à la commission. Donc ils n'ont pas encore atteint le stade où ils pourraient publier des chiffres, des dates, des responsables et des montants.
Concernant justement ces allégations de malversation, le président de la CENI dit avoir saisi toutes les instances de recours. Est-ce que vous pensez que cela pourrait peut-être régler cette question-là?
Sur l'aspect des malversations, ça peut effectivement lui permettre de se blanchir, de montrer qu'il n'a commis aucun acte frauduleux. Effectivement, il n'y a que les instances de recours, notamment la Cour des comptes, qui puissent lui donner ce satisfecit. Mais tout le monde comprend bien que la question financière ne vient qu'en additif à un autre aspect, qui est celui de la gestion de la commission et éventuellement des questions politiques également qui seraient derrière. C'est pour cela que la déclaration ne suffit pas à régler le conflit qui oppose maintenant M. Barry et certains commissaires de la CENI. Mais il faudrait, à partir de maintenant, que probablement d'autres acteurs interviennent dans le processus, notamment les partis politiques qui désignent les commissaires. Je veux parler ici de l'opposition et de la majorité, mais aussi même le corps de la société civile qui est aussi un arbitre entre les deux parties. Donc il va falloir certainement remonter à ces acteurs-là, également les acteurs du gouvernement, notamment le ministère de l'administration territoriale, voire le premier ministre, pour voir dans le fond quels sont les désaccords réels, quels sont les thèmes sur lesquels il y a désaccord et comment on peut les contourner. Parce que normalement, Newton Lamen Barry aurait dû immédiatement convoquer une plénière de la CENI qui aurait soit aplani l'affaire, soit fait une déclaration qui clarifie la situation qui prévaut. Mais dans un tel contexte, il se renvoie la balle mutuellement. Donc il est assez difficile pour les acteurs extérieurs de comprendre la situation.
Le politologue burkinabé Siaka Koulibaly.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
En République démocratique du Congo, l'Organisation mondiale de la santé a suspendu ses activités à Beni après la tuerie de samedi dernier d'une vingtaine de personnes.
Ces tueries sont attribuées aux rebelles ougandais des ADF, les forces démocratiques alliées. Eddy Issango a joint à Genève le porte-parole de l'OMS, Tariq Jassarevic.
Ça culminait avec une attaque dans la ville de Beni qui a laissé plus de 20 morts il y a quelques jours. Évidemment, la population de Beni a réagi et a monté des manifestations dans la ville qui ont eu pour le résultat donc un arrêt provisoire des opérations de la réponse d'Ebola, car on doit évidemment faire aussi attention à la sécurité de notre personnel. Cette suspension des opérations concerne uniquement la ville de Beni. Dans d'autres localités où nous sommes présents, on continue à travailler. Donc, vers le nord, dans la province d'Ituri, où il y avait des cas qui ont été signalés, aussi bien plus vers le sud, vers la ville de Butembo, et aussi dans la ville de Mangina, qui était l'épicentre de cette épidémie. La situation sécuritaire, évidemment, pose un problème et un grand défi. On a encore d'autres défis, c'est qu'on voit donc maintenant des cas d'Ebola apparaître à centaines de kilomètres plus loin que ce qui était l'épicentre. Et ceci est résultat qu'il y a une partie de la population qui donc n'était pas en faveur des interventions et des gens donc qui n'allaient pas dans les centres de traitement, mais plutôt fouillaient les équipes de réponse contre l'épidémie d'Ebola.
Vous parlez déjà de ces conséquences. Est-ce que vous ne craignez pas que ça s'aggrave puisque vous avez arrêté vos activités?
Chaque jour perdu augmente le risque de nouvelles infections. On espère vraiment qu'on pourra continuer avec les opérations à Beni et aussi donc continuer dans d'autres localités. Donc maintenant, on a des équipes sur plusieurs localités à Ituri et Kivu Nord. Aujourd'hui, on a lancé cet appel vraiment à tous les groupes armés, mais aussi tous les groupes politiques, tous ceux qui peuvent influencer sur la situation de sécurité, d'assurer à ce que les opérations humanitaires de réponse, de riposte contre l'épidémie Ebola et l'accès à la population.
Combien de temps durera la suspension des activités?
Cette suspension d'activité à Beni est provisoire, on l'espère bien. Voilà, on comprend qu'il y a des négociations en cours et on espère vraiment pouvoir continuer avec le travail au plus vite possible.
Voilà, c'était Tariq Jazarevic, le porte-parole de l'OMS à Genève.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer le monde au féminin de VOA Afrique, mardi et samedi à 19h05 temps universel. Le monde au féminin. Une émission dans laquelle on aborde les questions qui concernent et préoccupent les femmes et les jeunes. Un espace réservé à tous. Le monde au féminin. Un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel, sur VOA Afrique.
Environ 500 000 enfants libyens sont en danger immédiat à Tripoli, qui connaît des affrontements meurtriers depuis près d'un mois, déplore le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. L'UNICEF qui s'inquiète des nombreuses graves violations des droits de l'enfant à Tripoli.
Nanit Talani a joint Abdel Rahmar Gandou, représentant spécial de l'UNICEF pour la Libye.
La situation des enfants en Libye est effectivement très grave, en particulier à Tripoli, où 500 000 enfants, un demi-million, sont en danger. En danger direct d'abord, à cause des combats qui ont lieu en grande partie pour l'instant dans le sud de Tripoli, mais qui pourraient bouger. Et nous avons déjà perdu des enfants touchés directement par des balles et par des éclats d'obus et de roquettes. Des enfants qui ont été blessés, des enfants qui sont recrutés et utilisés par les milices armées actuellement. En plus de cela, il y a une épidémie de rougeole qui a lieu actuellement en Libye. Plus de 500 cas pour l'instant, et la majorité de ces cas sont des enfants de moins de 15 ans. On rajoute à cela le fait que l'année scolaire commence dans quelques jours et que les enfants ne peuvent pas retourner à l'école.
En ce qui concerne l'épidémie de la rougeole, qu'est-ce que l'UNICEF compte faire pour protéger ces enfants qui sont exposés à cette épidémie?
Nous comptons faire une campagne de vaccination dans l'intégralité du territoire, ce qui veut dire environ 3 millions d'enfants. Et pour faire cette campagne, il faut que nous soyons dans un climat de paix pour que nos équipes puissent faire leur travail et puissent diffuser, se disséminer dans l'intégralité du territoire, y compris à Tripoli. Il est impossible de faire une campagne de vaccination contre la rougeole quand des roquettes vous tombent dessus et qu'il y a des tirs de balles de tous les côtés et qu'il y a des barricades à tout coin de rue. Pour qu'on puisse faire cette campagne, il faut absolument qu'il y ait un cessez-le-feu, qu'il soit respecté.
Quelles sont les actions qu'il faut mener pour que ces enfants aient vraiment la vie à laquelle ils ont droit, un quotidien normal?
D'abord et avant tout, il faut que les combats cessent. Ensuite, une fois que la violence cesse, il faut que l'on commence à désarmer ces milices. Car la Libye est le pays où il y a le plus grand nombre d'armes par habitant dans le monde entier. Empêcher les enfants d'être recrutés ou d'être utilisés par les milices comme elles devraient se faire.
Médecins sans frontières a évoqué il y a 6 jours la situation des hommes et des femmes, mais surtout des enfants qui seraient détenus arbitrairement dans un centre surpeuplé.
Vous faites bien d'en parler. Ce sont des enfants invisibles, des enfants dont on ne parle pas. En particulier les enfants non accompagnés et séparés de leur famille qui ont traversé des frontières des pays de l'ouest de l'Afrique ou de l'est de l'Afrique dans l'espoir de trouver une vie meilleure, soit en Libye, soit en Europe. Ce qui nous inquiète en particulier, en plus du fait qu'ils soient détenus, c'est la situation de l'hygiène. Et vous savez, quand l'eau et l'assainissement ne répondent pas aux besoins les plus basiques, les risques d'épidémie sont graves, en particulier le choléra.
Abdel Rahmar Gandou, représentant spécial de l'UNICEF pour la Libye. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Firmin Koyaouida. À la présentation, Morgane Guerriec et Peggy Wabeno. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24/24. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.